France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
L'histoire se passe à Nantes en mai 2024. Elle est relatée par Le Figaro. À l'occasion du Mois des Fiertés, un club du centre-ville de Nantes décide de programmer une soirée drag queen appelée Ma Sœur. Ce n'est pas la première fois que le lieu propose ce genre d'événement. La soirée est annoncée avec une affiche qui montre deux drag queens entourées par des hommes en tenue de nonne, d'un moine en bure rouge et d'une croix utilisée, disons, de façon un peu suggestive. Une thématique qui ne semble pas au goût de plusieurs comptes ou médias de droite très tradis ou d'extrême droite qui se déchaînent contre la supposée christianophobie de la manifestation. Le gérant du bar appelle ça dans Le Figaro une déferlante très violente avec quelques messages particulièrement dangereux, comme par exemple, je cite, « J'espère que vous finirez bientôt la bouche sur le bord du trottoir ». Fin de citation. Lassé de tant de haine, le dit gérant décide alors d'annuler l'événement. Ce n'est pourtant ni de la parodie ni de la moquerie, mais de la réappropriation des codes religieux, déclare dans le même quotidien le président d'une association de personnes LGBTQIA+. Au pied sur terre, c'est aussi certainement l'avis de Timothée Dereux-Claudre, notre collaborateur, qui a décidé aujourd'hui de vous expliquer que la foi est compatible avec le sens de l'humour et de la dérision, que l'on peut être drag queen et pieux, gay et chrétien, tout autant que musulman. Pour préparer ce chapeau, il m'a aussi trouvé des dragues juives à New York, comme Amichal Lo-Lavi, qui est rabbin gay et drag queen, et un article très fouillé sur la parenté entre l'art du drag et la fête juive de Pourim. Avant d'écouter les récits de deux drag queens pratiquantes donc, on aura quand même une petite pensée pour les athées, les agnostiques et ceux que la religion indiffère profondément. Reportage donc, Timothée Dereux-Claudre.
Alors, je m'appelle Roucha et j'ai 39 ans. Actuellement, j'habite à Paris depuis 9 mois et je viens de la Tunisie. Je suis drag queen et j'écris. Je fais de la traduction. C'est un side job. Alors, je me définis en tant que personne non-binaire, du côté trans du genre. Parfois, je me sens plus vers la féminité, parfois un peu plus androgyne. Mais surtout, je ne suis pas du tout cisgenre dans mon expérience de genre et dans mon expression. J'ai grandi dans une famille musulmane, conservatrice. Donc, je ne peux pas me détacher de cette appartenance. Je l'assume culturellement, mais au niveau des croyances, j'ai quand même ma propre vision de l'islam. Alors j'ai grandi dans une ville du banlieue de Tunis, Ariana. Adulte, j'ai déménagé vers Tunis. Au tout début, et j'ai commencé à me prendre en photo quand j'étais à la fac. Il y avait cette matière, la photographie, et donc il y avait forcément la partie technique, la partie théorique et la partie pratique, donc des exercices. Et quand on nous demande de faire des portraits, j'avais du mal à demander à d'autres personnes pour poser devant mon objectif, parce que j'étais trop timide. Donc le plus facile pour moi était de me prendre en photo. Je commençais à manipuler mon visage. Je croyais que je faisais une sorte de make-up artistique, mais l'aspect féminin sortait dans les autoportraits et on a commencé à me faire des remarques. Tu te fais toujours des autoportraits androgynes et pour moi c'était pas un choix, mais après j'ai commencé à l'assumer. C'est justement en 2015 que j'ai commencé à me maquiller, à me prendre en photo et à poster ces autoportraits sur les réseaux sociaux en toute affirmation. Et quand j'ai commencé à assumer pleinement cette féminité, je commençais à recevoir des commentaires un peu plus hostiles, mais C'est ce qui m'a permis de persévérer, parce qu'à partir de là, j'ai tout de suite compris que, à partir du moment que ça dérange, que ça a un effet. Un petit autoportrait peut faire bouger des choses. Et c'est comme ça que je me suis introduite à l'activisme et à la société civile en Tunisie. La première fois où j'ai croisé l'art du drag, c'était aussi à la fac. Parce qu'à l'époque, je faisais des recherches sur Google. Et je tombe sur le maquilleur de RuPaul. Il y avait une ressemblance. Parce qu'il portait un make-up assez extravagant avec une barbe qui est quand même assez dense. Mais j'ai pas commencé encore à m'identifier à cette pratique. Donc il fallait attendre jusqu'à 2017 pour que je monte sur scène en drag. Parce qu'avant, j'étais sur scène, mais pas en tant que drag queen, en tant qu'activiste, pour faire des lectures de textes, de mes propres textes. Mais la première fois où j'ai animé, enfin j'étais l'hôtesse de cérémonie dans une soirée queer, en mars 2017. Et aussi, cette proposition venait... des deux gérants d'un bar en Tunisie, qui était un des bars les plus, disons, gay-friendly en Tunisie. Et cette soirée, qui était mi-privée, mi-publique, elle a rassemblé pratiquement toutes les organisations LGBT à cette époque. Ce qui était quand même un peu dur, vu les conflits intérieurs. Pour moi, c'était un moment historique dans l'histoire de la Tunisie, mais aussi dans l'histoire du mouvement LGBT. Ça a commencé à être sérieusement dangereux après une large vague d'arrestations qui a atteint plusieurs activistes, opposants, des journalistes, des avocats. Je savais que... c'était une question de temps avant que je serais interpellé ou arrêté. Donc j'ai pris cette décision de fuir, littéralement. J'ai quitté la Tunisie l'année dernière, en mai. Donc ça fait 9 mois que je suis à Paris. J'ai obtenu le statut de réfugié en septembre. Bon, j'ai pas vraiment de revenus. Parce que j'ai pas pu quand même m'intégrer dans la scène artistique à Paris. Et voilà, mais j'essaie de m'en sortir quand même. Il y a aussi toute une communauté ici à Paris qui essaye de me porter de l'aide. Mais l'obstacle, c'est de m'adapter, de m'introduire, de pouvoir établir des liens avec la scène artistique, avec la scène drag. Et de me faire connaître. Et donc je dois faire mes preuves et tout refaire à zéro. Ce qui peut être un peu épuisant, mais je sais que je vais le faire. La question, cette appartenance à l'islam, je pense qu'elle occupe une bonne place dans ce que je fais, dans tout ce que je fais d'ailleurs, parce que aussi je commençais à avoir un regard critique par rapport à l'islam, par rapport à la religion. J'avais deux choix, soit de me débarrasser ou de me détacher complètement par rapport à ce paradigme, ou bien je l'adopte et je le refaçonne à ma manière, ou je mets ma vision dedans. Parce que je pense que toute religion est une question d'interprétation et toute personne a le droit de voir la religion et de avoir une vision ou une interprétation d'une religion quelconque. Et donc j'ai choisi le choix le plus difficile. Et c'est de rester au sein de ce paradigme, mais avoir une place qui me ressemble. Et donc, c'est pourquoi je veille à ce que en m'identifiant en tant que musulmane, avec tout ce que ça a comme facteur de discrimination et tout, pour moi un nouveau champ de bataille qui s'est ouvert devant moi. C'était de prouver que l'islam, comme toute autre religion, pourrait être le fruit d'une interprétation humaine qui est malsaine ou qui est bienveillante. Et donc choisir de représenter le côté bienveillant de la religion et d'assumer cette appartenance. Oui, je suis musulmane, j'aimerais bien que ça soit visible et j'aimerais bien que ça soit beau. Dans la pratique artistique, je repose sur toute l'esthétique que j'ai vue en grandissant. Par exemple, pour mes costumes, j'ai toujours des images de costumes traditionnels que les mariés et les femmes portaient lors des cérémonies de mariage. Ils étaient fortement ornementés avec des motifs floraux, avec des textures brillantes. Et j'essaie d'introduire ces éléments de culture, ces éléments esthétiques dans le drag, dans l'art que je fais, mais avec un petit twist, parfois plus moderne, parfois je les mélange avec d'autres influences esthétiques, ou parfois je les rends plus androgynes, plus osés, plus extravagants, plus provocateurs. Donc j'allais performer à Berlin dans un festival de drag qui était censé rassembler des drag queens enfin de la région arabophone ou de la diaspora. Et j'ai voulu que le symbole du drapeau tunisien soit mon costume. C'est un costume qui est très dénudé, je pense, qui porte un large croissant et une étoile. Pour moi, c'est le symbole le plus visible de l'islam. Voilà, je pense que c'était ça, la réflexion derrière ce costume. J'ai arrêté d'être pratiquante, mais je garde l'essence de l'islam. C'est-à-dire, je ne sens plus le besoin de faire des pratiques, comme la prière par exemple, mais plutôt, j'adopte un comportement qui est assez représentatif de ce que j'appellerais l'essence de l'islam, c'est-à-dire la bienveillance. Pour moi, c'est plus important que faire des gestes mécaniques 5 fois par jour, et j'essaye de me le rappeler quotidiennement. Alors, j'ai commencé à concevoir des tatouages en calligraphie, en typographie arabe. Et donc, j'ai fait le premier tatouage de 2 versets du Coran qui résument pour moi l'essence du Coran. Et ça parle de la bienveillance. Et c'est Dieu qui parle aux humains pour leur dire quand quelqu'un nous fait du bien, la récompense systématique de cela, c'est de faire du bien. On peut pas faire du mal à quelqu'un qui nous fait du bien. Et le deuxième, c'est celui-là. Je l'ai fait suite à un épisode dépressif. Ça parle de la volonté de Dieu. Quand Dieu veut, par exemple, intervenir dans une situation de détresse, il peut tout régler d'un seul coup. C'est-à-dire, peu importe la situation et sa complexité, si on se livre à cette volonté de Dieu, il saura faire les choses et il saura régler tout ce qui ne va pas. Voilà. Donc pour moi, c'est aussi une façon de me rappeler que Dieu est toujours présent. Il est toujours présent pour le bien.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Hugo, j'ai 36 ans, je suis contre-ténor flûtiste et je suis également l'interprète de Miss Badessa, une diva franco-italienne qui raconte sa vie et son œuvre à travers des airs d'opéra. Je suis catholique pratiquant et homosexuel. Je suis né en Bretagne, mais j'ai grandi au Québec de parents français. Ma famille pourrait être définie comme une famille de bouffeurs de curés. Et quand j'avais 14 ans, notre professeur de latin, Madame Probst, nous avait fortement recommandé de lire les Métamorphoses d'Ovide et la Bible pour notre culture générale. Et moi, bon élève, je m'étais acheté les deux livres et j'en avais entamé la lecture. Sauf que au milieu du Lévitique, j'ai craqué, j'ai laissé tomber. Et jusqu'à la nuit de Pâques de l'année suivante, j'ai entendu comme une petite voix intérieure qui me disait « Arrête de faire le bon élève, tu liras pas toute la Bible dans l'ordre. Passe à la fin des évangiles qui racontent ce qui se passe à Pâques. » Puisque je savais que Pâques, c'était mort et résurrection du Christ. Et donc j'ai lu les quatre passions cette nuit-là. Et c'est ça qui m'a fait croire. À ce moment-là, j'ai reçu la conviction que ce que je lisais, c'était vraiment passé et que ça s'était passé pour l'humanité et pour moi. Ma famille a assez mal vécu que je m'engage dans le chemin de la pratique religieuse. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils se demandent, mes parents se demandent ce qu'ils ont manqué dans leur éducation pour que je sois religieux. J'ai compris progressivement à l'adolescence que j'étais gay, mais en fait, j'étais surtout pas très intéressé par les choses sexuelles et sentimentales. Et c'est à 18 ans, en arrivant aux études en France, là, j'ai eu mon premier coup de cœur pour un garçon, puis vraiment un garçon de ma classe, enfin, etc. Et là, je me suis dit que, effectivement, j'étais sans doute gay. Et à ce moment-là, donc, s'est ouvert tout un chapitre de réflexion assez dur, d'ailleurs, sur foi et homosexualité. Oui, avec même, je peux dire, la peur de brûler en enfer, quoi, d'une certaine façon, si je me laissais aller à vivre mon homosexualité. Et donc, c'était très, très, oui, très douloureux, toute cette période. Alors, quand je suis arrivé en France à 18 ans pour mes études, j'ai d'abord fréquenté les paroisses du coin, etc. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à aller chaque année passer Pâques dans différentes maisons religieuses. Et donc, je me suis mis à multiplier les retraites, etc. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment encore plus directement interrogé sur la possibilité de moi-même devenir religieux. Et donc, j'ai eu 4 ou 5 ans, disons, de quête, quoi, de recherche, donc à coup de retraite, de groupe de réflexion, de discernement, d'entretien avec des accompagnateurs spirituels, etc., pour comprendre si j'étais appelé ou non à entrer au monastère. Comme dans ces mêmes années, je ne me voyais pas nécessairement en couple, voilà, vraiment la vie communautaire pouvait me sembler une très bonne option. Sauf que, avec le discernement, justement, j'ai compris que j'avais aussi des talents qui n'auraient pas pu être mises à profit dans la vie monastique, ou en tout cas pas dans les communautés qui m'intéressaient, que ce soit la musique, ou bien aussi j'avais des projets de recherche, disons, de vie intellectuelle, et qui n'auraient pas pu vraiment être mises à profit. Voilà. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai aimé me travestir, piquer le rouge à lèvres de ma mère dans la salle de bain, ou supplier ma tante de me prêter une des jupes de mes cousines pour avoir une jupe comme mes cousines. J'avais aussi le plaisir de créer des personnages une fois que j'étais travesti, donc je m'inventais une vie. Et à un moment donné, vers la fin du primaire, j'ai compris que vraiment ça pouvait m'attirer des ennuis. Et que même, je me souviens que des fois, ma mère, elle trouvait ça un peu bizarre que j'aime autant me travestir. Donc, j'ai un peu laissé tomber, sans en être conscient, en fait. Hein. Mais j'ai mis ça sous le boisseau, jusqu'à découvrir Dalida. Enfin, découvrir, je savais qu'elle existait, mais disons avoir une vraie rencontre personnelle, une conversion à Dalida à 18 ans. Et là, progressivement, je me suis remis parfois à me mettre un fichu sur la tête pour imiter Dalida en soirée. Puis un jour, l'anniversaire d'une de mes cousines, la fameuse dont j'adorais la jupe, où là, je me suis pour le coup vraiment acheté un petit kit pour pouvoir imiter Dalida et lui faire la surprise à son anniversaire. Et donc à partir de là, lentement, j'ai commencé à multiplier les occasions de me travestir pour chanter. Et une chose en entraînant une autre, bah, j'ai étoffé un peu le personnage qui n'était pas nommé au début, qui était plus, oui, un genre d'imitation de Dalida, mais qui a de plus en plus pris son autonomie narrative, disons, pour devenir un jour Miss Badessa. À Florence, j'avais un groupe d'amis gays avec qui on regardait religieusement Sanremo, qui n'a pas d'équivalent en France. Enfin, ça serait un peu l'Eurovision italienne, si on veut, mais qui est vraiment très, très populaire en Italie. On regardait ça et ces amis-là se moquaient un peu de moi parce que j'étais le seul religieux dans la bande. Et donc, ils s'étaient mis à m'appeler la badessa, pour rire de moi gentiment, évidemment. Mais... Et donc, la badessa, c'est la mère abbesse en italien. Moi, je trouvais ça très amusant. Et quand, 5 ans plus tard, il a fallu que je trouve un nom pour ce personnage que j'étais en train de créer, je cherchais quelque chose qui soit un clin d'œil à l'Italie. Et donc, j'ai pensé à la Badessa. Pour moi, Miss Badessa, c'était une diva un peu déchue, chanteuse lyrique, parce que le chant lyrique me permettait... d'aller dans du répertoire vraiment émouvant. Moi, ce que je cherche aussi dans mes spectacles, c'est que les personnes puissent passer du rire aux larmes et des larmes au rire, et qu'il y ait une place voilà, pour tout type d'émotion. Moi, ce que j'ai cherché à travailler, c'est la voix de falsetto, la voix de contre-ténor, qui, pour un homme, permet, dans une certaine mesure, de donner une illusion auditive féminine. Pour me permettre d'incarner des rôles féminins, que ce soit Carmen, la Traviata, n'importe qui. Miss Badessa, c'est une orpheline qui a été retrouvée vagissante sur les marches d'un couvent à la frontière entre la France et l'Italie, qui est située en fait à Saorge, donc un couvent franciscain. Et elle a été élevée là, dans la piété, mais aussi dans l'ouverture. C'était des sœurs très bonnes pour elle et qui lui ont appris bon, les choses les plus élémentaires, hein, je veux dire le chant grégorien, le latin, la traite, l'affinage du fromage. Et bon, c'est vrai qu'il y avait peut-être quelques trous dans la raquette, ce qui fait que quand elle s'est retrouvée dans le monde, après, elle a été un peu désorientée à certains moments. Mais elle n'a jamais perdu la foi. Et ni l'ouverture du cœur que les sœurs lui ont enseigné. Elle a un rapport à la fois très spontané et très comme tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas du tout un rapport à la fois militant, c'est, oui, c'est une religion de l'époque où tout le monde était baptisé, quoi. Et donc, elle ne se positionne pas spécialement comme une catholique qui voudrait convertir je ne sais qui. En revanche, oui, elle fait souvent référence à la Madone. Et il peut arriver qu'elle chante l'Ave Maria pour le plus grand plaisir d'une partie de son auditoire. Et c'est pas rare que les gens pleurent, d'ailleurs, quand elle chante l'Ave Maria. C'est un grand moment d'émotion. Elle s'en remet très facilement à Dieu, oui, parce qu'elle a quand même beaucoup d'épreuves à traverser et la prière l'aide beaucoup. Bon, il y a un secret qu'elle révèle à peu de monde, mais là, je vais me permettre de le révéler parce qu'on lui demande toujours quelle est sa skin care, sa routine, quoi, pour maintenir sa peau, parce qu'elle a une très belle peau pour son âge, Miss Badessa. Eh bien, quelques gouttes d'eau de Lourdes, matin et soir, et l'affaire est dans le sac. Dans l'univers drag, j'ai eu certaines déceptions, surtout au début, quand j'ai commencé, c'est-à-dire que je m'attendais à davantage de sororité, de solidarité, disons, et j'ai l'impression parfois que Miss Badessa peut être vue comme trop ringarde, que ça soit dans des établissements comme Madame Arthur, ou voilà, un peu ces univers-là, je pense que Miss Badessa est trop vieux jeu. Alors moi, ça n'a aucun impact sur mes choix artistiques, mais je constate simplement que, pour l'instant, en tout cas, Miss Badessa n'est pas intégrée à cet univers-là, alors que, à mes yeux, c'est parfaitement compatible. Et puis, on a tous plaisir à inviter une tante un peu vieux jeu, un peu trop parfumée, un peu trop maquillée, à sa fête d'anniversaire. Ça peut devenir la sensation, quoi, ça peut devenir l'idole des jeunes. Mais aujourd'hui, le mariage ne s'est pas fait.
Je pense que je vais plutôt essayer ce truc blanc. Mm-hmm. Merci. J'ai une jupe claire, là. Je me suis ruiné en friperie. Heureusement que c'est que le son et pas l'image, parce que vous verriez des choses qu'une dame ne montre pas normalement. Les dessous. Il y en a plus d'un que ça a rendu hétérosexuel. Méfiez-vous. Et l'avanti! Magnifique.
Elle n'est pas facile à trouver quand même.
Oui, et tu l'as trouvé où alors pour finir?
Dans le plus vieux magasin catholique à Porto. Historique.
J'adore! Vous voyez, Rico, il s'est me comblé. Une mantille, et il rend une diva heureuse.
Miss Badessa est présente sur quasiment tous les réseaux sociaux. L'idée est d'essayer de toucher un public plus large parce que je réalise aussi que les programmateurs de salles peuvent être sensibles au nombre d'abonnés que nous avons sur les réseaux sociaux et qu'il faut donc souscrire à la religion méta pour percer sur scène. Alors que, bon, disons que je n'ai pas l'intention que Miss Badessa devienne une Instagrammeuse en tant que telle. Mais bon, je dois dire que je m'amuse aussi, je me suis prise au jeu.
C'est l'histoire de Jésus qui veut célébrer Pâques avec tous ses amis à Jérusalem. Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. Ça crie « Vive Jésus, vive Jésus !» Et 5 jours après, ça demande à ce qu'on le crucifie. On se croirait à l'opéra. Le public, il se retourne sans cesse contre ses idoles.
Au départ, je cherchais vraiment à distinguer le personnage Miss Badessa de ma vraie personnalité, entre guillemets, et en me disant, bah, je suis moi quand je vais à la messe, etc. Et Miss Badessa, c'est un personnage qui existe sur scène ou à la limite derrière la caméra pour les réseaux sociaux. Mais c'est deux choses bien distinctes. Et donc, finalement, j'avais pas vraiment de questions à me poser sur la compatibilité de mon art du travestissement et du chant, etc. et de ma foi. Mais en fait, progressivement, je me suis dit, oui, mais en fait, Miss Badessa, elle peut aussi transmettre une part de foi, enfin une part de ma foi et de la foi en général, et puis rejoindre les gens aussi dans leurs aspirations spirituelles, même si c'est fait de façon comique. Donc c'est pour ça que maintenant j'assume plus aussi le caractère, enfin disons la part religieuse de Miss Badessa. Et moi, à l'inverse aussi, j'ai tendance avec le temps à laisser aussi, à abaisser progressivement la barrière entre Miss Badessa et ma propre personne. Et finalement, bon, ça devient deux éléments de ma vie qui communiquent, quoi. Et donc, bon, Miss Badessa est trépieuse. Moi, je suis croyant. Bon, et voilà, finalement, on se rejoint, quoi.
C'était La foi des reines, un reportage de Timothée de Reglaudre réalisé par Perret Le Graff. Merci à Hugo, alias Miss Badessa, à son assistant Enrico, à Ostiane de l'association Devenir un en Christ. Merci également à Roura, ma queer, et au podcast Jeans. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Adèle Toquet, notre stagiaire. I'm